Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. C'est Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans manceaux, qui ne fait pas le pont, proposée par Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafond. Cette semaine, 6 nouveautés. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours comme ça quand il y a le Festival de Cannes. On va parler de Top Gun Maverick, de Frères et Sœurs, Homme au bord de la crise de nerfs, Don Juan, Les Crimes du futur. Ça tourne à Saint-Pierre et Miquelon. Et je voudrais faire un tout petit avertissement avant de commencer l'émission, à savoir que je répète que l'émission Clap, c'est des avis personnels et ça n'engage que moi et Pierre. Parce que je dis ça parce que les trois films que j'ai vus qui sont du Festival de Cannes, je ne les ai pas aimés, voire détestés. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que Pierre a raison aussi, mais on préfère le dire parce qu'on va croire qu'on est anti-Cannes, non pas forcément, mais les trois pour moi sont des films qui m'ont vraiment ennuyé. Voilà, alors donc à part Top Gun, mais Top Gun n'est pas en compétition officielle.
Enfin, il a été présenté en avant-première à Cannes quand même.
Voilà. Alors pour ce qui est justement de la programmation musicale, eh bien on va aller chercher des titres, beaucoup dans Top Gun, mais il y en aura un ou deux aussi dans Home. Au bord de la crise de nerfs, et on commence par le titre de Lady Gaga, Hold My Hand, qu'on entend
à la fin
oui. Sur le générique de fin dans Top Gun Maverick. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Hold my hand, everything will be okay. I heard from the heavens that clouds have been gray. Pull me close, wrap me in your aching arms. I see that you're hurting. Why'd you take so long to tell me you need me? I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to, raise your head, look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, give it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need. We'll be right back.
I heard from the heavens.
Lady Gaga, Hold My Hand, la chanson du générique de fin du film Top Gun Maverick. Et bien justement, on en parle. Top Gun Maverick, le film est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce, au Colisée. Dans ces deux dernières salles, il y a au moins une séance en version originale par jour. Et au Méga CGR, on peut le voir en salle Ice. Et là, ça doit sacrément dépoter au niveau du son. Mais bon, voilà. Top Gun Maverick, c'est un film de Joseph Kosinski. Joseph Kosinski, réalisateur, producteur américain, né en 1974. Il avait réalisé en 2010 Tron, l'héritage, avec Jeff Bridges et Olivia Wilde. 2013, Oblivion, avec Tom Cruise, Olga Kurylenko et Morgan Freeman. Et en 2017, Line of Fire, directement en VOD, avec Josh Brolin et Jeff Bridges. Son film Top Gun Maverick dure 2h11. Après avoir été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la marine américaine pendant plus de 30 ans, Pete Maverick Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter en grade car cela l'obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission spéciale qu'aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick Goose Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d'une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. Alors, la revue de presse, on va la faire longue parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ce film. On commence par Cinématiseur et Aurélien Alain dans ce spectacle virtuose, taillé évidemment sur mesure pour le très grand écran. La licence Top Gun se trouve une légitimité presque inédite et retrouve une nouvelle jeunesse, son dernier tiers jouabilement avec ses recettes pour les faire muter, comme si subsistait toujours en Tom Cruise une petite part d'Ethan Hunt. Ethan Hunt, c'est le personnage qui joue dans l'émission Impossible. Antoine Desrues, dans Écran large, au-delà de surpasser son modèle avec ses séquences de vol diablement spectaculaires, Top Gun Maverick permet à Tom Cruise d'interroger sa propre légende pour mieux affirmer qu'il est le meilleur. Un blockbuster d'artisan honnête, généreux et bourré de classe. Le journal du dimanche, un divertissement spectaculaire qui s'apprécie sur grand écran. Jean-Luc Vachthausen dans Le Point n'empêche, Tom Cruise Maverick a changé, s'est bonifié avec le temps et donne au film un nouveau parfum d'aventure en mêlant trois éléments qui font tilt. L'action, avec des scènes aériennes sans effets spéciaux, à couper le souffle. La romance Kleenex et la réflexion sur le sens de la vie, l'amitié, le sacrifice, l'héroïsme. Théo Hiriboton, Les Inrecuptibles, deux ou trois grandes scènes, une belle idée, cela suffit parfois à faire un grand blockbuster et c'est ici le cas. Tant Top Gun Maverick parvient à sublimer ses moments clés malgré un liant plutôt convenu. Yannick Velli dans Marie Match. L'attente a été longue, une génération est passée, mais loin d'en être qu'un film doudou de plus pour conforter un public nostalgique, Top Gun Maverick est aussi et surtout un formidable film d'action à découvrir sur le plus grand écran possible. L'Obs, Nicolas Chalère, disons le franchement, présenté en compétition à Cannes, Top Gun Maverick, avec son scénario balisé, ses personnages archétypaux et ses non-dits pachydermiques, fait plaisir à voir, parce que s'y joue une idée quasiment disparue du blockbuster. C'est vrai. Caroline Bess, Télérama, de cet hommage au cinéma rétro des années 80, émane une certaine jubilation. Les scènes d'entraînement et la mission dans le canyon à très basse altitude rappellent l'attaque de l'étoile de la mort dans Star Wars et sont à couper le souffle. Alors vous allez me dire, mais tout le monde a aimé. Non, quand même pas. La Croix, Stéphane Dreyfus. Très divertissant, le film pâtit toujours de son esthétique publicitaire, destiné à vendre le rêve américain, si possible, devant un coucher de soleil sur la plage. Marius Chapuis, Libération, au final, il n'y a que l'action pour sauver Maverick du désastre. Sans être une bouleversante nouveauté, les scènes d'entraînement et de combat aérien travaillent joliment le rythme, accélant sans virer au frénétique et ralentissant quand il le faut pour redonner de l'air et de l'importance au mouvement. Et puis il y a ceux qui n'ont vraiment pas du tout aimé, c'est Olivier de Bruyne dans Les Échos. 36 ans après le premier Top Gun de Tony Scott, le film qui lui a permis de devenir une superstar internationale, Tom Cruise devant la caméra de Joseph Kosinski, rendosse son blouson d'aviateur. Hélas, cette longue saga aéronavale coche toutes les cases du blockbuster certifié conforme et n'ajoute rien à la gloire de son acteur principal. Et Mathieu Machéry dans Le Monde, c'est encore plus sur la nostalgie que le capitalisme Maverick, ne cessant de reconvoquer sur un registre fétichiste les scènes, lieux et personnages de son modèle, érigés ici en référence indépassable et dupliquées mécaniquement sans une once de créativité. Alors qu'avons-nous pensé de Top Gun Maverick ? Eh bien, moi, le plus grand bien.
Moi aussi.
Voilà, le plus grand bien. Eh bien, tout simplement, c'est un film qui est globalement à rebours des valeurs de l'ère du temps. Pensez donc, le héros en est un mâle blanc de plus de 50 ans. Les valeurs qu'il porte sont l'héroïsme, la transmission d'un vieux vers des jeunes, l'amitié virile, le sens de l'honneur. Bref, tout ce qu'il faut pour hérisser le poil de tous les woke de la Terre. Et rien que pour ça, c'est réjouissant. D'autant plus que si on rajoute que l'histoire d'amour est tout ce qu'il y a de plus traditionnel entre un homme et une femme, bref, c'est un vrai cauchemar pour la bien-pensance actuelle. Alors, de quoi s'agit-il eh bien, dans ce film ? 36 ans après le Top Gun initial de Tony Scott, Pete Maverick, pilote d'essai, qui n'a jamais vraiment dételé, reste toujours une forte tête, franc-tireur, audacieux, tête brûlée, et malgré l'âge, eh bien, il redevient instructeur de l'école d'aviation de Top Gun pour préparer les jeunes pilotes à une mission impossible, détruire l'installation nucléaire d'un état voyou, pas cité d'ailleurs, mais bon, c'est un mélange de Corée du Nord, d'Iran, de tout ça, enfin, mais c'est pas... Voilà, bon... Le film reprend la mythologie du premier, lui est totalement fidèle. Hein. Les allusions au premier opus sont d'ailleurs nombreuses. Et les liens entre les deux époques font partie intégrante de l'intrigue. On est totalement dans l'esprit donc, du premier, avec de nombreuses séquences qui sont des passages obligés. La moto sans casque, avec le blouson sur le dos, le match sur la plage. Alors cette fois-ci, ce n'est pas du volleyball, c'est du football américain.
Oui.
Voilà. Et puis surtout, les morceaux de bravoure aérien. Entraînement, combat, totalement vertigineux. Alors, pour sûr, on n'est pas chez Serge Bozon. Serge Bozon, j'en parle tout à l'heure dans Don Juan. On n'est pas du tout chez lui pour la façon de filmer. Hein. C'est hyper dynamique, sans le moindre temps mort. C'est à couper le souffle, sans effet numérique, puisque les scènes d'aviation ont été faites en conditions réelles. Bref, tous ceux qui ont vu le premier au cinéma, en cassette vidéo, en DVD, en streaming, que sais-je encore, et qui l'ont aimé, vont adorer le spectacle offert par ce Top Gun Maverick. C'est un pur produit d'entertainment, on en est bien d'accord, c'est sensationnel. Ça va faire du bien aux exploitants, car ils sont en train de tirer un petit peu la langue, les exploitants, moins de 30% d'entrées en moins par rapport à l'avant-Covid, parce que je ne doute absolument pas du succès. Et puis, enfin, c'est une alternative bienvenue aux Marveleries et autres Dumbledoreries dans le genre blockbuster. Et puis, enfin, une dernière remarque, putain que Tom Cruise a du charme et du charisme. Franchement, il est toujours aussi beau gosse et il a 60 ans. Il est plus vieux que Jean Castex. Voilà. Je n'ai décidément aucune prise sur lui.
Ah
voilà.
Non, il fait jeune. Hein.
Ah ben oui, ça c'est sûr. Bon, ouais. C'est sûr qu'il a les moyens de s'entretenir, il y a du maquillage. Enfin, le corps, il ne peut pas le cacher quand même. Hein.
Alors, un petit mot pour commencer sur le titre. Maverick, c'est le surnom de Pete Mitchell,
oui.
Joué par Tom Cruise, parce que tous les pilotes dans cette école ont un surnom. Voilà. Alors, il paraît que cette édition de Top Gun est meilleure que la première. Je ne saurais vous dire, car je n'ai pas vu le premier.
Oh, malheureux.
Oui, j'étais à l'époque très occupé par mes activités radiophoniques. C'était en 1986, si je ne me trompe.
Oui.
Oui, tout à fait. En tout cas, ce film est excellent. Ah oui, pour une fois, je ne suis pas méchant du tout. Vous savez que je n'aime pas les films longs, mais là, les 2h15 passent très bien. Une histoire bien ficelée, agrémentée de suspense. Seul reproche peut-être le style très américain,
ah oui,
qui tend à faire vibrer les cordes sensibles dans les moments d'émotion. Il ne manque plus que les violons. Mais à part ça, bon, j'ai beaucoup aimé aussi la bande originale très riche, avec notamment The Who, Lady Gaga, que l'on vient d'écouter, dont le clip passe en boucle sur les chaînes musicales. Amateur d'action et d'émotion, vous ne raterez certainement pas ce nouveau volet de Top Gun 36 ans après.
Voilà, et vous pouvez le voir donc au Colisée VF-VO, Omega CGR VF avec éventuellement la salle Ice et au Pathé VF-VO.
Et au Pathé, c'est dans la grande salle aussi,
oui,
avec un super grand écran.
Exactement. Mm. Frères et sœurs, ben là, c'est uniquement au cinéaste. Frères et sœurs, c'est un film qui a droit à 3 séances par jour. C'est un film d'Arnaud Desplechin, réalisateur, scénariste, directeur de la photo. Il a commencé sa carrière de réalisateur en 91 avec La vie des morts, un film avec Thibault Montalembert. 92, La sentinelle avec Nadine Allary et Philippe Besson. 96, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle avec Mathieu Amalric et Emmanuel Devos. 2000, Esther Kahn avec Yann Holm et Summer Phoenix. 2003, Léo en jouant dans La compagnie des hommes avec Samy Bouajila. 2004, Rois et Reines avec Emmanuel Devos et Mathieu Amalric, qui sont un petit peu ses acteurs fétiches. 2008, Un conte de Noël avec Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon. 2013, un film qui me paraît inédit qui s'appelle La Forêt. Alors, je ne sais pas trop ce que c'était, je n'ai pas réussi à trouver. 2013, Jimmy P avec Benicio del Toro et Mathieu Malric. 2017, Les Fantômes d'Ismaël, Mathieu Malric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg. 2019, Roubaix une lumière avec Roche Dizem, Léa Seydoux, Sarah Forestier. Et puis tout récemment, hein, en 2021, c'était en décembre, je crois bien, Tromperie avec Denis Podalydès, Léa Seydoux et Emmanuel Devos. Le film Frères et Sœurs dure 1h48. C'est avec Marion Cotillard et Melville Poupeau en tête d'affiche. Mais il y a aussi Patrick Timsit, Goldshifté Farahani, etc. Donc, un frère et une sœur à l'orée de la cinquantaine. Alice est actrice, lui, Louis fut professeur et poète. Alice et son frère depuis plus de 20 ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps. Quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait, nous dit-on. Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. Éric Neuhoff dans Le Figaro, cela s'appelle La Grâce. Desplechin maîtrise son sujet de A jusqu'à Z. Les images sont sa langue maternelle. Il n'a pas peur des mots non plus. C'est un athlète complet du cinéma. On pensait qu'il était l'héritier de Truffaut. Est en train de devenir notre Bergman. Céline Rouden dans La Croix, Arnaud Desplechin renoue avec la veine familiale dans ce drame flamboyant et infiniment humain qui voit un frère et une sœur séparés depuis 20 ans par une haine tenace se retrouver au chevet de leurs parents. Yves Jéglé dans Le Parisien parle d'un duel somptueux au cœur d'un film magistral sur les conflits familiaux inextricables. Fabrice Leclerc dans Paris Match, œuvre atypique et endiablée, récit tragique mais aérien, cruel mais jouissif de la haine viscérale que se portent Alice et Louis. Thierry Chaise, première, après le décevant Tromperie, Desplechin revient en grande forme avec un film où il explore les histoires d'amour-haine familiale avec une dextérité toujours aussi fascinante. Marion Cotillard y trouve un de ses plus beaux rôles. Isabelle Magnier, Télé 7 jours, à la fois grave et léger, un grand Desplechin, magnifié par les acteurs qui nous séduisent d'autant plus qu'il reste mystérieux jusqu'au bout. Samuel Duer dans Télérama parle d'une chronique intense et lumineuse. Le seul qui a éventuellement un petit bémol, c'est Luc Chesson dans Libération. Frères et sœurs, dans tout le propos affiché d'oublier un peu le cinéma ou la littérature pour enfin parler de la vie, sans défense et sans protection, fait l'inverse. Il ne semble plus filmer aucun autre espace que stylistique, aucun temps autre que grammatical. Le fameux film à l'imparfait. Voilà, donc là, la critique, vous l'avez compris, est très enthousiaste. Et quand vous allez sur Allociné, vous allez voir les réactions des spectateurs, eh bien, c'est tout à fait l'inverse. La majorité n'ont pas aimé le film et je fais partie des spectateurs.
Moi voilà, aussi.
Alors, Desplechin, c'est un cinéaste qui jouit d'une énorme cote auprès de la critique parisienne, toujours prompte à adorer ces histoires de famille où tout le monde vit dans l'excès, dans le traumatisme. Frères et sœurs, ne dérogent pas à cette règle-là. Il est question de la relation d'un frère, donc écrivain, poète, professeur, et d'une sœur, elle, actrice, qui se haïssent depuis 20 ans, sans d'ailleurs que la raison de cette détestation soit ici bien clairement exprimée. La jalousie peut-être du succès de l'un par rapport à l'autre, je ne sais pas. Toujours est-il que les deux vont devoir se retrouver suite à l'accident de leurs parents, qui les conduit au chevet de ses parents, à l'hôpital. Voilà, donc c'est un drame psychologique, intimiste sur les dysfonctionnements d'une famille où tout le monde a quelque chose à reprocher aux autres, les parents aux enfants et réciproquement, les membres de la fratrie entre eux, ainsi que les pièces rapportées, beau-frère, belle-sœur, etc. Ça a un côté bergmanien, oui, je suis bien d'accord avec un des critiques qui a cité Bergman, ça a un côté bergmanien. Ça plaira beaucoup aux intellectuels qui ont des problèmes existentiels. Alors, plus resserré sur le sujet, hein. Le sujet c'est la haine des deux protagonistes l'un envers l'autre qui les relie et les détruit et qui vont finir par dépasser, on vous annonce déjà la fin du film. Plus resserré sur le sujet, cela m'aurait peut-être intéressé, mais le film multiplie les digressions sur les personnages secondaires. Par exemple, il y a une jeune admiratrice roumaine du personnage joué par Marion Cotillard. On peut couper ce personnage au montage, ça ne change rien. Il y a un psy ami de Melville Poupeau joué par Patrick Timsit, là aussi, bon, ouais, c'est bon, voilà, bon. Moi, je ne vois pas l'intérêt de tous ces personnages, et je reconnais que c'est le genre de film, quand même, qui est au-dessus de ma condition, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est beaucoup plus savant que moi, je n'ai sûrement pas les capacités pour l'apprécier, tant les personnages sont éloignés de moi, de mes préoccupations, et puis leur jeu hystérique et clicheteux me déplaît aussi. Même la direction d'acteur, donc, m'a parfois agacé, parce que je reconnais volontiers l'intensité des performances de Marion Cotillard et Melville Poupeau, mais j'ai aussi l'impression, par moments, que les acteurs se regardaient jouer. Voilà. Et puis, je passe sur la scène de l'accident au début du film, qui montre manifestement que Desplechin n'est pas un futur réalisateur de films d'action, tellement c'est épouvantable comme scène d'action. Même moi, je dois pouvoir filmer mieux ça. Bref, un drame intime, assurément, qui ne m'a absolument pas touché, dont je n'ai absolument pas saisi tous les tenants et aboutissants. Exemple, l'épilogue. Là, je me pose des questions sur cet épilogue, Marion Cotillard, qui part aider en Afrique. Bon, parce qu'elle n'a plus de haine, voilà, c'est certainement ça. Bref, c'est du cinéma d'auteur français dans ce qu'il y a de plus caricatural, mais qu'adorent les critiques. Alors, Pierre.
J'ai embrayé sur toi, là. J'ai pas trop aimé. Le film présenté donc au Festival de Cannes, certes, mais est-ce vraiment une référence, les films présentés au Festival de Cannes, voire la Palme d'Or l'année dernière? Les acteurs principaux, Melvin Poupeau et Marion Cotillard, jouent les acteurs et en font trop, à mon avis, beaucoup trop, notamment dans les scènes de colère, à tel point que l'on n'y croit pas. On voit qu'ils jouent, or un film est bon lorsque l'on y croit et que l'on oublie que c'est une fiction. Le thème est pourtant intéressant, le conflit familial, mais trop de dialogues, de monologues même parfois. En conclusion, vous l'avez compris, je n'ai pas aimé.
Eh bien, nous sommes deux donc. Et bon, les critiques.
Pourtant, les critiques sont bonnes.
Très, très bonnes. Mmh. Mais je rappelle que je suis allé regarder sur certains forums et la grande majorité des spectateurs sont de notre avis à Pierre et moi.
Ça nous rassure quand même.
Voilà, exactement. Allez, un petit M, Mathieu Chédid, La Bonne Étoile, on entend son titre dans Homme au bord de la crise de nerfs, dont on va parler juste après. Donc M, La Bonne Étoile, sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûr de nous du tout, dans la nébuleuse. Ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes.
Autour de toutes ces figurantes étoiles.
Même La Bonne Étoile, un titre que l'on entend dans le film Homme au bord de la crise de nerfs. Et bien justement, c'est l'occasion d'en parler de ce film. C'est un film d'Audrey Dana, proposé par le méga CGR, le Pâté Quinconce, c'est le Colisée. Oui, oui, trois copies sur la ville. Audrey Dana, c'est avant tout une actrice, mais c'est aussi depuis quelques années une réalisatrice, scénariste. Elle est née en 77, elle a commencé par le court-métrage. 2014, un premier long-métrage sous les jupes des filles, avec un casting féminin exceptionnel. Il y avait Isabelle Adjani, Vanessa Paradis, Sylvie Testu, etc., etc. 2017, Si j'étais un homme, avec elle-même, Christian Clavier, Eric Elmosnino. Et puis, en tant qu'actrice, bien, c'est un peu Lelouch qui l'a révélé, avec Roman de Gare. Et puis ensuite, on l'a vu dans des films comme Welcome, Le bruit des glaçons de Bertrand Blier, 600 kilos d'heure pure, Ces amours-là de Lelouch, Sage-femme, Knock, La vérité si je mens les débuts, Les choses humaines, etc., etc. Elle a une petite carrière, enfin une belle carrière déjà, en tant qu'actrice. Le film Homme au bord de la crise de nerfs dure 1h37. Sept hommes de 17 à 70 ans que tout oppose, sinon d'être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, exclusivement réservé aux hommes, est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée, le coach est une femme. Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux, avec ou sans leur consentement. Alors, dans le casting, la coach, c'est Marina Hans. Les garçons, eh bien, il y a Thierry Lhermitte, Ramzi Bedia, François-Xavier de Maison, Patrick Demolon, et puis Laurent Stocker, je dois en oublier encore un ou deux. François Léger, dans West France, parle d'une comédie joyeuse au casting très hétéroclite. Corinne Renoux-Nativa dans La Croix, le scénario bien écrit est servi par une troupe de comédiens convaincante. Julien Marcillon, Télé 7 jours. Si son film repose sur une véritable enquête sociologique, la cinéaste, entourée d'une jolie troupe, tire avec entrain de ce matériau une comédie chorale, drôle et touchante. Le Journal du Dimanche, malgré un scénario parfois bancal et des gags poussifs, cette comédie chorale dégage une énergie joyeusement foutraque, portée par des comédiens dans tous leurs états, Thierry Lhermitte en veuf acariâtre, Ramzi Bedia travaillé par sa virilité, Pascal Demolon en écrivain alcoolique, etc. François Léger dans Première, la première partie, celle de la découverte de l'autre, est d'ailleurs la plus réjouissante. On s'engueule, on se marre, on pleure et on se regarde le nombril avec beaucoup de naturel. La suite est plus programmatique, il faut bien résoudre les conflits intérieurs, parfois un peu artificiellement, et moins inspiré dans sa réalisation. Donc rappel, Colisée, Pâté Quinconce et Méga CGR pour ce homme au bord de la crise de nerfs. Donc c'est donc sept hommes entre 17 et 70 ans, chacun en pleine déprime, pour des raisons différentes, et surtout dans un stage en pleine nature, dirigé par une coach en développement personnel, censé résoudre leurs problèmes et les faire donc aller mieux, en leur faisant mener, grâce à une thérapie de groupe, une vie déconnectée, où ils vont devoir se débrouiller pour survivre avec les moyens du bord, donc en pleine nature. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un film choral. C'est Audrey Dana qui réalise, et à travers chaque personnage, eh bien, on développe tous les thèmes à la mode de l'ultra-moderne solitude masculine. Voilà. C'est écrit de façon, je trouve, assez lâche, hein, sur un schéma archi-habituel. Hein. Au départ, ben, opposition entre les personnages, qui se détestent plus ou moins les uns les autres, puis ils apprennent à se découvrir, et enfin, il y a la solidarité de groupe qui se développe après le dépassement des conflits de départ. C'est quelque chose comme schéma narratif qui est bien connu. Alors, c'est interprété par de bons acteurs. Ben, c'est une comédie qui, personnellement, ne m'a pas arraché plus de deux ou trois sourires. Mais je dois reconnaître que dans la salle, il y avait des gens qui riaient de bon cœur. Puis c'est surtout que ça a fini par, chez moi, plutôt susciter de l'ennui sur la longueur. Donc, c'est encore une comédie feel-good, française, je dirais tiède, pas vraiment emballante, paresseuse dans son écriture et sa mise en scène. Je ne suis pas du tout emballé par ça, je ne sais pas ce que ça va donner au point de vue public. Moi, par exemple, dans le genre comédie, j'ai préféré J'adore ce que vous faites avec Lanvin et Artus la semaine dernière, par exemple.
Voilà, donc, je suis d'accord.
Voilà, Homme au bord de la crise de nerfs. Bon, Méga CGR, Pâté Quinconce et Colisée. Pour Don Juan, c'est uniquement au cinéaste qui est proposé le film. C'est un film qui est présenté à Cannes. Alors, je ne sais pas si c'est en compétition ou hors compétition. Le film a droit à deux ou trois séances par jour. C'est un film français de Serge Bozon. Serge Bozon, c'est un acteur, réalisateur, scénariste en 72. Il a commencé en 97 avec un film qui s'appelait L'Amitié, avec lui-même et Eva Truffaut. 2002, Modo. 2006, La France, avec Sylvie Testu, Pascal Grégory et Guillaume Depardieu. 2012, Tip Top, avec Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlin et François Damiens. Et 2016, Madame Hyde, avec Isabelle Huppert, Romain Duris et José Garcia. Moi, je me rappelle des deux derniers. Je ne peux pas dire que j'étais très enthousiaste vis-à-vis de ces films-là. Don Juan, donc, 1h40 en 2022, Don Juan n'est plus l'homme qui séduit toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme, celle qu'il a abandonnée. Don Juan, c'est Taraïm, la femme, c'est Virginie Efira. Marcos Uzal, dans Cahiers du cinéma, à rebrousse-poil, Don Juan est en quelque sorte une non-comédie du non-remariage, dont la mélancolie se déploie à travers les courants contradictoires de sa singulière poétique, à la fois sèche et sentimentale. François Delbecq dans Elle, un film moderne qui propose une relecture délicate et troublante du mythe du séducteur. Didier Perron, Libération. Le film désarçonne et captive tant il nous drague et nous largue, tout y advient avec la fraîcheur des premières fois et s'y part aussitôt d'une froideur fatidique. Le Figaro, Benjamin Puech, metteur en scène alerte, Serge Boson parvient à construire l'univers esthétique, les personnages gagnent à l'écran quelque chose d'irréel. Cela ne parvient malheureusement pas à faire oublier le scénario alambiqué de ce Don Juan qui, du mythe, a surtout le nom. La rédaction du Parisien, Serge Boson, crée une ambiance et un fil rouge, ou très noir, plus qu'une intrigue, avec des lenteurs qui nous perdent en route, mais on en sort fasciné par Taraïm, en amoureux abattu de tout son long, loup solitaire ou chien battu qui va être dévoré par la meute de ces femmes qui n'en forment qu'une et repoussent un homme qui a perdu son âme, ses nerfs et ses esprits. Thierry Chaise en première, le résultat pâtit parfois d'une cérébralité qui étouffe l'émotion, mais peut compter sur ses deux interprètes pour apporter de la chair et des larmes à son propos. Taraïm qui exprime à merveille physiquement cet homme à la dérive, et Virginie Efira, fascinante dans sa façon de ramener en permanence le récit vers quelque chose de concret, sans rien perdre de la poésie et de l'expièglerie ici à l'œuvre. Nicolas Charard dans l'Obs, la fantaisie du projet, les personnages chantonnent lorsqu'ils laissent parler leur cœur, devient embarrassante et la mise en scène besogneuse, sans liant ni grâce, figeant le film, chapelé d'intentions inertes. Et West France, Gilles Kerdreux, bref, à part pour les inconditionnels de Serge Boson, il y a de quoi s'ennuyer ferme. Et je confirme ce que dit ce brave Gilles Kerdreux, je me suis ennuyé ferme. Donc après 3 minutes, on sent déjà que le film va être une épreuve. Et oui, hélas, on ne s'était pas trompé, c'est bien une épreuve. Le film se présente sous la forme d'une sorte de comédie musicale, je dis bien une sorte, parce que n'est pas Jacques Demy, et surtout Michel Legrand qui veut, visant à déconstruire, c'est le terme à la mode, le mythe de Don Juan pour le revisiter. Don Juan, ici, c'est un acteur de théâtre qui, le jour de son mariage avec Julie, se fait planter à la mairie par la future épousée. Dès lors, eh bien, il croit la voir dans toutes les femmes qu'il aborde et avec qui, invariablement, il se prend un râteau. Mise en scène statique, alors c'est rien de le dire, hein, acteur au jeu approximatif, c'est un comble avec quand même Taraïm et Virginie Efira, chanson banalement ordinaire, histoire sans intérêt, s'appropriant vaguement l'histoire de Don Juan, hein, il n'y aurait pas le titre Don Juan, bref, ennui profond assuré pour le pauvre spectateur qui n'a qu'une hâte, que le malheureux héros se prenne vite un dernier râteau pour que ça en finisse, mais peut-être tout ça est-il finalement très poétique, hein, peut-être. Bon, bref, une relecture féministe de la pièce de Molière. En fait, ça n'a pas grand-chose à voir avec la pièce, ou plutôt c'est exactement l'inverse, si ce n'est que les acteurs du film interprètent cette pièce, enfin la répètent, et puis la jouent douce, qu'on appelle la fameuse mise en abîme. Le seul à en sentirer honorablement dans ce film, moi j'ai trouvé, c'est Alain Chamfort, dans le rôle d'un néo-commandeur. Hein, voilà, donc c'est une nouvelle illustration du décalage entre les goûts de la critique, encore que là, il y a quelques-uns qui n'ont pas aimé, et ceux du grand public. Voilà.
Hein, ah bah dis donc, moi qui avais envie d'y aller.
Ah bah écoute,
pour voir Virginie Efira,
c'est un risque et péril. Ah oui. Bah écoute, oui, ça, voilà. Bien, allez, on revient à la bande originale du film Top Gun Maverick. Et ça, c'est un titre que l'on entend deux fois. Une fois dans le Top Gun original et une fois dans le Top Gun Maverick. C'est Kenny Loggins, Danger Zone. Et là, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Yeah.
Kenny Loggins, Danger Zone, un titre que l'on entend dans Top Gun Maverick, mais qu'on entendait aussi dans Top Gun tout court, il y a 36 ans de cela. Les Crimes du Futur, c'est un film de David Cronenberg proposé au Pathé Quinconce, VF, VO et au cinéaste, uniquement VF, 3 séances par jour. David Cronenberg, c'est un réalisateur, producteur, scénariste, monteur, directeur de la photo, il n'est pas tout jeune, il est en 43. Il a commencé par les téléfilms, des courts-métrages, et puis en 69, ça remonte quand même, hein, un premier long-métrage s'appelait Stéréo, puis 70, Crimes of the Future, c'est un premier film expérimental, il en fera d'autres ensuite. 74, Frisson, 76, Rage, ou Rage, 79, Fast Company, 79, Chromosome 3. Tiens, à propos, les cinéastes proposent un cycle, David Cronenberg, où on reprend.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Là. Et donc, Chromosome 3, j'y pense. Scanners en 81, Videodrome en 82, Dead Zone en 83. Tous ces films-là sont des films horreur épouvante. Hein. Soit 86, c'est vraiment le gros succès, c'était La Mouche, avec Jeff Goldblum et Gina Davis. 88, Faux-semblant, avec Jeremy Irons et Geneviève Bujold. Et puis ensuite, eh bien, David Cronenberg commence à se lancer dans du cinéma beaucoup plus pointu, avec par exemple Le Festin nu, avec Peter Weller et Ian Holm, Mr. Butterfly, avec Jeremy Irons et John Lone en 93, 96, Crash, avec James Spader, Holly Hunter et Rosanna Arquette, 99, Existence, avec Jude Law, Jennifer Jason Leigh, 2001, Spider, avec Ralph Fiennes, 2005, History of Violence, avec Viggo Mortensen, Ed Harris, 2007, La Promesse de l'Aube, avec Viggo Mortensen, Naomi Watts, 2011, A Dangerous Method, avec Keira Knightley, Viggo Mortensen et Michael Fassbender. 2012, là, on rentre dans vraiment des trucs qui sont assez pointus. Cosmopolis, avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. Et 2014, Map to the Stars, avec Julianne Moore et Mia Wasikowska. Voilà, ça fait quand même une belle série de films. Et donc, ça fait donc presque... Ça fait 8 ans que Cronenberg n'avait pas fait de film. Attention, le film est interdit au moins de 12 ans. De quoi est-il question ? Alors que l'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste-performeur, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Tim Lin, une enquêtrice du bureau du registre national des organes, suit de près leurs pratiques. C'est alors qu'un groupe mystérieux se manifeste. Ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Alors, l'écran fantastique, Cédric Coppola, complexe, maîtrisé et servi par une interprétation sans faille, ce 22e opus respire l'esprit de son auteur jusqu'à la moelle, pour le plus grand plaisir de tous les cinéphiles, incontournable. Caroline Nivet dans 20 minutes, à la fois beau et, on ne peut le nier, clivant, ce film envoûte et dérange de la plus séduisante façon. Marco Suzal, cahier du cinéma, pourquoi la chirurgie du docteur Cronenberg opère-t-elle toujours ? Parce que sa science-fiction n'a jamais cédé aux rêveries futuristes, ni joué au jeu des prophéties. Elle est restée arrimée à la seule chose qui l'intéresse vraiment, le corps humain et son devenir, le corps comme principal terrain de l'esprit et seul lieu possible d'une transcendance. Perrine Kenneson dans Cinématiseur, si Les Crimes du Futur n'est pas le meilleur film de son auteur, il en demeure sûrement le plus personnel, le plus lucide et étonnamment optimiste. Ah bon ? Nicolas Schaller dans L'Obs, Cronenberg, le Francis Bacon des expérimentations médicales ne s'est pas assagi. Il renoue avec la fibre body horror de ses débuts, mais à la manière plus froide et théorique de Crash et d'Existence. Ça, c'est vrai. Étienne Sorin, Le Figaro, Les Crimes du Futur pourraient n'être qu'un pensum fumeux et bavard. Il ne faut pas prendre Cronenberg trop au sérieux. Le Canadien a bien plus d'humour que ses exégètes, ivres d'interprétation, écologisme, transhumanisme, corps mutant, et d'interconnexion avec ses films précédents du cinéaste, Scanner, Existence, Crash. Un humour noir sardonique. Renaud Baronian, Le Parisien, sombre, dérangeant, parfois très prenant et donnant à réfléchir. Les Crimes du Futur doivent aussi beaucoup à ses interprètes principaux. Je ne les ai pas cités, c'est Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart. Luc Chessel dans Libération, un film érotique et abstrait, tranchant, irrespirable, incorporel, presque pas un film, une idée, dernière pensée avant l'extinction. Alors Télérama, il y a un pour, il y a un contre. On commence à Jacques Maurice, le pour. Le film marque néanmoins par son sens envoûtant de la cérémonie crépusculaire où se mêlent le sacré et le sacrilège. Entre infanticide, détournement de cadavres, scarification et cicatrices baroques, Les Crimes du Futur est fieux et violent, mais d'une violence calme, conceptuelle. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé, donc je vous lis dans Télérama, c'est Frédéric Strauss. Cette fiction dont le corps est le centre ne prend jamais chair. Les plans défilent comme les tableaux d'une exposition, la caméra aussi stoïque qu'un clou planté dans le mur, et quel est ce futur inconsistant où des créateurs-performeurs évoluent dans des décors sommaires. Gilles Kervaux dans Ouest-France, les comédiens brillent dans la sobriété, mais on ressort quand même de ce film avec le sentiment de ne pas pouvoir tout démêler des idées enchevêtrées dans la tête de David Cronenberg. Paris Match, Yannick Veuilly, les crimes du futur fascinent par son propos, les liens qu'il tisse entre l'art contemporain et le cinéma, son absence de compromis et l'efficacité, et au spectacle. C'est peut-être la limite de l'exercice aussi, très théorique, le film peine à incarner son récit au-delà de la performance de Viggo Mortensen, un évident double du cinéaste. L'humanité, Cyprien Cadéo, avec les crimes du futur, le Canadien signe un film testament théorique et désincarné, parcouru de quelques fulgurances, mais boursouflé, à boire, à manger et beaucoup à régurgiter. Ben oui, c'est un peu mon avis là aussi. Je ne vais pas chercher à vous résumer le film, c'est absolument impossible. Et si je le tentais, vous ne comprendriez rien. Disons quand même qu'on est dans un futur indéterminé, les hommes ont vaincu la douleur, ils leur poussent de nouveaux organes internes, la chirurgie est une nouvelle forme de sexualité, et les deux personnages principaux du film sont des artistes performeurs qui justement pratiquent en public l'ablation de ces organes surnuméraires dans des spectacles d'avant-garde. Ouais. Bon, voilà. Hein. Alors, dialogue abscon, situation absurde, acteur en surjeu. Viggo Mortensen, il est aussi expressif qu'une huître. Il est habillé comme le héros de Assassin's Creed. On ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi, mais bon, c'est peut-être à cause du Covid qu'il a toujours quelque chose devant la bouche, j'en sais rien. Intrigue peu compréhensible, qui s'éparpille d'ailleurs. Tout cela au service des obsessions, là je suis bien d'accord, cronenbergiennes, pour le corps et ses mutations et mutilations. Là je suis d'accord. J'avoue, j'ai décroché au bout d'un certain temps, n'y comprenant goutte, je n'ai pas cherché à suivre. C'est clairement un film pour Happy Few, admirateur d'art contemporain. C'est fait davantage pour les critiques que le grand public, qui verra un film bavard, ridicule même, mais peut-être est-ce de l'humour, peut-être, hein, par moment. Mais il ne faut pas le dire, hein, si vous critiquez ce genre de film, vous passez pour un cuistre. Et donc, tant pis, certains trouveront cela dérangeant. Bon, pourquoi pas, après tout. Moi, j'ai trouvé ça surtout grotesque et très, très pesant.
Ce film est en compétition à Cannes. Hein.
Exactement. Mmh. Bon, si le film a la Palme d'Or, ça ne m'étonnera pas, puisque Titanic l'a bien vu l'année dernière.
Avec Titanic.
Mais bon, c'est pas très grave. Hein. Voilà, là, ça s'appelle Les Crimes du Futur. Celui qui n'aura pas la Palme d'Or cette année à Cannes, c'est Saturn à Saint-Pierre et Miquelon, parce qu'il n'est pas présenté. Donc, il ne peut pas être palmé, c'est sûr. C'est un film qu'on peut voir au Colisée, uniquement au Colisée, avec deux séances par jour. C'est un film de Christian Monnier. Christian Monnier, je crois bien que c'est son premier film. Non, il avait déjà réalisé en 2009 Le Chien. Et auparavant, des courts-métrages nombreux et variés. C'est un réalisateur scénariste né en 68. Alors, de quoi est-il question dans ce film d'1h35 ? Eh bien, Céline, actrice renommée, alors ça, c'est pas vrai, elle n'est pas renommée du tout, c'est plutôt même une débutante, mais enfin, c'est pas grave, est engagée par un célèbre réalisateur, Milan Zdowski, pour partir tourner à Saint-Pierre-et-Miquelon dans un film dont elle ne connaît quasiment rien. Ça, c'est vrai. Quand elle arrive sur place, il n'y a pour toute équipe qu'un ingénieur du son et une régisseuse. Et Milan refuse obstinément de sortir du cabanon où il s'est enfermé pour « créer », entre guillemets. Le grand monteur en scène, adepte du cinéma vérité, fera-t-il tourner Céline ou l'a-t-il fait venir sur l'archipel pour toute autre chose ? Voilà tout l'enjeu du film. Alors, Télérama, Cécile Murie, portée de bout en bout par une lumineuse Céline Mauge. Ah bon ? Cette comédie joyeusement insolite et bricoleuse sur la filiation, la création, l'attente et aussi en vrac l'addiction à la morue, les cris d'animaux et la dictature des réseaux sociaux, est une bonne surprise, un savoureux petit conte philosophique au pays des embruns et de la fantaisie. Xavier Le Harper dans l'Obs, la mise en scène purement illustrative, ne peut rien sauver de cette entreprise qui surnage grâce à ses comédiens et en particulier à trois seconds rôles mal écrits mais campés avec talent par Philippe Rebaud, Valérie Mérès et Claire Nadeau. Baptiste Thion, le journal du dimanche, passe en charme, son humour loufoque et parodique peut séduire, mais elle peine à tenir sur la longueur, faute d'un scénario abouti. Dommage, parce que les comédiens sont impeccables. François Léger dans Ouest-France parle d'une comédie dramatique qui peine à trouver son ton. Et François Léger, toujours, mais cette fois-ci dans Première, le film évacue vite la piste du tournage rocambolesque pour basculer sur l'aventure intérieure de son héroïne. Ça ne tient pas debout deux secondes, mais le récit s'obstine, étouffant savamment toute aspérité qui aurait fait sa singularité. Eh bien, j'ai vu, ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Colisée. Céline, donc, c'est une jeune actrice engagée par un réalisateur mythique. Pourquoi il est mythique ? Parce qu'il n'a plus tourné depuis 30 ans. Et puis, c'est un des pontes, un des adeptes du cinéma vérité. Et donc, elle a été engagée, cette brave Céline, pour faire un film à Saint-Pierre-et-Miquelon. Arrivée sur place, eh bien, elle découvre que l'équipe se réduit à la régisseuse, sympathique, et à l'ingénieur du son, non moins sympathique, et que le réalisateur, lui, se claque mur dans sa maisonnette et il ne veut voir personne. Voilà. Donc ça, il ne lui reste alors à cette pauvre Céline qu'à découvrir l'archipel pour passer le temps. Mais peut-être, peut-être, est-elle là aussi pour une autre raison qu'elle ignore. Alors ça commence comme une comédie un peu loufoque, oui, je reprends le terme, sur le tournage d'un film, et à mi-chemin, eh bien, le film change de direction pour devenir un film sur la filiation. Voilà. Alors, c'est constamment de médiocrité dans sa réalisation, des acteurs sans qualité particulière. C'est un film qui a tout l'air d'une œuvre semi-professionnelle, tant il semble fauché. Et pourtant, bah, il y avait, on le découvre vers la fin, une bonne idée dans ce film, mais une idée qui est tellement mal exploitée, tant le film est mal écrit, mal mis en scène, je le répète. Au moins, a-t-il le mérite de nous faire découvrir l'archipel, hein, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un archipel. De nous faire découvrir cet archipel à la nature sauvage, qui n'a d'ailleurs rien d'extraordinaire, reconnaissons-le, si ce n'est sa situation particulièrement isolée au large du Canada et de Terre-Neuve. Alors, comme j'attendais rien du film, ben, je ne peux pas parler de déception, juste d'un sympathique ratage. Quoi. Voilà. Il faut savoir que c'est un film qui est ce qu'on appelle une sortie technique. Hein. Sur Paris, il doit y avoir trois copies, pas plus. Mmh. Voilà. Et donc, il y a, je crois, trois, quatre cinémas en France qui proposent. Ça tourne à Saint-Pierre-et-Miquelon et le Colisée en fait partie. Donc, si vous aimez Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est l'occasion d'aller vous promener sur l'archipel. Voilà, allez, il nous reste un tout petit peu de temps. On passe One Republic, un titre que l'on entend dans le film Top Gun. Voilà, allez, hop, c'est parti. One Republic sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. I don't know what you've been told, but time is running. Dans le film Top Gun Maverick, les films à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, une seule avant-première, un film d'horreur, hein, Firestarter. Alors, c'est à 20h30 mardi soir au Colisée ou à 22h15 au Méga CGR. Dans les deux cas, c'est la version française. Les films qu'on pourra voir la semaine prochaine, eh bien, il y a Compétition officielle. Alors, je l'ai déjà vu, c'est très très drôle. Ça sera en VO, c'est sûr, au cinéaste. Est-ce qu'il y aura une VF ailleurs, ça, je n'en sais rien, mais c'est très très drôle. C'est avec Penelope Cruz, Antonio Banderas. Firestarter, donc, la petite comédie française de la semaine, ce sera C'est magnifique, de Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac, Alice Paul. Et puis, les cinéastes proposeront au moins deux films, Clara Sola et Broadway. Voilà, Broadway, ça n'a rien à voir avec Broadway, hein, ça se passe en Grèce. Ah. Donc, voilà, les films de cette semaine, eh bien, Pierre et moi, on vous recommande Top Gun Maverick.
Ah, tout à fait, oui.
Et puis, les autres, c'est vraiment, si vous aimez le cinéma d'auteur, bien prise de tête. Après tout, on a le droit, hein, d'aimer ça. Voilà, ben c'est sur ces paroles que nous allons vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on se retrouve, nous, la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.